Inter, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale. Vous l'avez tous remarqué, on en entend beaucoup parler sur la totalité, je dirais, des médias. Nous sommes dans plus que la journée qui est le 14 octobre, mais nous sommes dans la semaine de la qualité de l'air. Et à ce titre, chaque année, nous avons une émission spéciale. Et je suis vraiment ravi de contribuer, enfin, nous sommes ravis avec tous les invités de contribuer à faire prendre conscience que cette qualité de l'air doit être améliorée. D'ailleurs, elle l'est. Mais ça fait également la 6e année de l'émission. On dirait pas, mais franchement, c'est qui aurait parié au départ pour dire on parle d'un sujet de la qualité de l'air qui passe généralement au-dessus un petit peu de tout le monde, puisque le réflexe de respirer est toujours aussi tellement banal finalement qu'on n'y pense pas spécialement et à ce qu'on respire. Mais effectivement, on est là pour avancer au plus loin. Et on va encore avancer aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. J'ai jamais eu autant de papiers devant moi, tellement il y a de sujets que l'on va aborder, mais on va essayer de les aborder de la manière la plus précise possible, la plus compréhensible aussi, parce qu'il y a tellement de choses finalement. Et je vais passer la parole à mes invités et on commence par Fabien Schinazzi. Bonjour mon cher Fabien, bonjour. Encore bienvenue.
Bonjour, merci de ton invitation.
Encore. Donc Fabien, tu es au Conseil de la Santé publique.
Voilà, toujours président de la commission sur les risques liés à l'environnement. Nous travaillons sur ces sujets de qualité d'air depuis des années et on continue à être saisi sur différents types de sujets concernant la qualité de l'air.
Voilà, l'air intérieur, l'air extérieur, tout ça c'est en fait un ensemble pour lequel il faut bien se tenir et on redira ça peut-être tout à l'heure, mais le premier air intérieur, pour donner à réfléchir, c'est celui à l'intérieur de nous. Et cet air intérieur, il est dans un air intérieur d'un bâtiment dans lequel on vit plus de 80% de notre temps, et ça s'accroît. Et également, on a après cet air extérieur, donc vous voyez que les composantes pour lesquelles il faut faire attention sont nombreuses. À ta gauche, mon cher Fabien, Tony Renucci. Bonjour Tony, encore
bonjour.
Bienvenue. Des habitués de l'émission.
Oui.
Donc t'as toujours beaucoup de sujets, toi.
Bon, on essaye. En même temps, il y a beaucoup de sujets de pollution.
Il y a beaucoup de sujets. On va parler des 50 km/h peut-être. On va parler des pollutions aux abords des zones sportives. Voilà, donc ça aussi, c'est des sujets primordiaux. Eh ben non, Sylvain, tu me regardes, mais ça va être Francis. Francis Allard, mon cher Francis, bienvenue une nouvelle fois.
Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir.
Comment ça va?
Très bien.
On va parler d'un petit coin de Vendée tout à l'heure.
C'est pas de Vendée, enfin, c'est Charente-Maritime.
Charente-Maritime, c'est vrai, excuse-moi, je suis allé un peu trop haut, je te voyais plus près. Mais on a eu une petite actualité il n'y a pas très longtemps sur des enfants notamment fortement impactés avec des traces de polluants qu'on aurait normalement n'aurait pas dû trouver, puisque c'est des pesticides qui sont plus normalement utilisés. Donc on va évoquer cela. Et Sylvain Courtais, bonjour Sylvain, bienvenue, c'est ta première
bonjour.
Sur l'émission.
Oui, merci beaucoup pour cette invitation, cette première invitation. Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler un petit peu de notre activité.
Voilà, et puis c'est pas la dernière, puisque tous les invités reviennent plusieurs fois sur l'émission. Parce
ce sera avec plaisir.
On s'inscrit, on l'a vu pour les 6 ans, on s'inscrit dans la durée, et cette durée, ça passe par suivre les sujets. Et d'ailleurs, on le disait avant que l'émission démarre tous ensemble, cette émission, comme l'air, c'est pas une actualité. C'est de la permanence et on s'aperçoit que ça s'améliore quand même, il faut être positif sur le sujet, mais il y a toujours encore pas mal à faire. Alors pour ce premier sujet, Eurovent Certita Certification, tu en es le président du directoire, un petit mot sur Eurovent Sylvain.
Oui, donc on est l'organisme européen de référence pour la certification des matériels de génie climatique, y compris les matériels qui sont en charge de la ventilation, de l'épuration de l'air, de la filtration. Donc on a une très forte composante qualité de l'air intérieur au sein de notre organisation. Et donc on valide les performances des matériels qui se trouvent dans les bâtiments, les systèmes qui aident l'air à se renouveler, à se filtrer et donc à aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.
Donc cet air intérieur qui est quand même primordial, il faut des systèmes qui soient fiables, il faut des systèmes qui soient adaptés. On va avoir, on entend parler de débit réglementaire bien souvent, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que ça pour avoir une bonne qualité de l'air à l'intérieur. Il y a d'autres sujets qui se profilent. Et puis, justement, il va falloir que ces matériels soient fiables dans le temps, parce qu'on n'est pas là pour avoir des matériels auxquels on va se poser des questions et de se dire, est-ce que c'est vraiment efficace pour ce dont on a besoin? Et c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu. Une première approche peut-être, Sylvain, par rapport à On parlait tout à l'heure de réglementaire, on va démarrer avec toi. Cette approche, elle est avant tout réglementaire, on le voit beaucoup, et en France notamment. On le voit aussi en Europe, puisqu'il y a des directives qui viennent justement d'être validées. Ta vision par rapport à cela, le réglementaire, et toi tu me parlais d'un autre type d'approche qu'il convient de prendre en compte ?
Oui, effectivement. Donc, nous, au Revent Certita Certification, on est issu de l'industrie européenne des fabricants de matériel de génie climatique, donc Eurovent Association, qui effectivement traite beaucoup de l'aspect réglementaire européen. Mais moi, au sein de l'Eurovent Certita Certification, on est plutôt sur la partie certification des performances, et on n'est pas forcément lié aux réglementations. On a une approche qui est plutôt de faire en sorte que le marché ait suffisamment d'informations et la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Donc on est vraiment sur une approche marché pour inciter à acheter des matériels plus, je dirais, vertueux, dans le sens des économies d'énergie, évidemment, mais dans le sens de l'efficacité de filtration, des performances de ventilation. Et donc nous, notre approche, c'est vraiment d'aider les acteurs du marché à avoir confiance dans les matériels et donc à faire monter aussi en gamme, de manière générale, la qualité des matériels en Europe. Et je souhaite quand même mentionner qu'on est aussi acteur au Moyen-Orient, en Asie, puisque notre marque de certification a de plus en plus d'impact sur ces régions-là. Et l'Europe et l'industrie européenne est vue comme l'industrie, on va dire, leader mondialement dans le domaine de la ventilation et de la qualité de l'intérieur. On est vraiment très reconnu. Alors, grâce aux réglementations qui existent au niveau national et européen, mais aussi parce que l'expérience des pays et des fabricants européens est telle que on est vu comme voilà sur des produits d'excellence au niveau mondial. Donc je suis assez fier de montrer l'excellence européenne dans des régions proches de nous.
Alors ça veut dire que c'est quand même un prisme intéressant, c'est que on a toujours tendance à dire que la ventilation ou le renouvellement de l'air, c'est le parent pauvre, je dirais, de la vie dans nos bâtiments, mine de rien, quel qu'il soit. Et là, on s'aperçoit que finalement, non, pas du tout, et qu'on est plutôt bien placé sur ce plan, et on progresse bien. Par contre, on peut peut-être revenir sur le terme de marché. Marché, ça veut dire faire du business à tout prix derrière. C'est pas le cas en primaire, puisque en premier abord, puisque c'est avant tout d'avoir les bons outils, finalement, pour le gérer. Et quelquefois, on a des systèmes ou des principes, au global, qui vont pas être plus chers que ceux d'avant, mais qui vont nous permettre de faire beaucoup mieux. Donc, exactement, c'est aussi tout ça qui est mis en corrélation, parce que nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on a mis énormément d'argent quelque part qu'on va avoir du résultat, ou de même que si on prend les 10 systèmes les meilleurs, les mettre ensemble, tout élément confondu dans un bâtiment, on n'aura peut-être pas la meilleure adéquation aussi pour ça. Donc il faut toujours avoir une grande réflexion, et ça, c'est grâce à Eurovent aussi que ça se pose et que vous l'amenez.
En fait, ce qu'on observe, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, on parle des ressources d'économie qui peuvent permettre de financer des projets qui peuvent coûter cher au départ, mais qui vont avoir un retour sur investissement sur le long terme. Donc moi, je viens de l'Université de La Rochelle, à l'origine. Donc Francis était mon directeur de thèse à l'époque. J'étais géré par Patrice Blondeau de l'université, que je salue d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion, donc ça fait maintenant 20 ans, d'assister à une conférence de Olli Seppänen, qui est une des éminences de la qualité de l'intérieur en Europe, et qui, à cette époque, expliquait que 1 euro investi dans la qualité de l'air intérieur a un retour sur investissement 100 fois supérieur à l'efficacité énergétique. Donc les ressources et les potentiels.
Parce que moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Un élément, c'est tout simplement, c'est qu'on a toujours tendance à dire on va faire de l'énergétique à tout prix.
Oui.
Et là, on voit que la qualité de l'air va nous amener beaucoup plus d'avantages. C'est sûrement lié aux capacités cognitives qui sont maintenues et je dirais améliorées par rapport au niveau que l'on peut trouver.
Alors évidemment, je pense que l'étude à l'époque regardait plutôt les bureaux, les immeubles de bureaux. Et donc effectivement, la productivité augmente lorsqu'on a un air intérieur sain. Moi, je l'ai expérimenté récemment, puisque dans notre bureau, on a eu certains problèmes il y a un moment, et donc c'est vrai. Et donc, 1 euro dépensé pour améliorer la qualité de l'intérieur rapporte 100 fois plus qu'un euro dépensé pour l'efficacité énergétique. Et là, ça veut dire que ça met en perspective tout le potentiel que l'on peut avoir pour, globalement, améliorer aussi tous ces niveaux-là.
On dit travailler plus pour gagner plus, mais là forcément on va travailler pareil pour aller plus loin, donc c'est intéressant aussi.
Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant, et évidemment il y a l'aspect santé qui est encore plus important, mais c'est aussi bien de rappeler qu'il y a, il y a des ressorts économiques qu'il faut aussi mettre en œuvre pour inciter les investisseurs, les propriétaires de bâtiments à vraiment se pencher sur la question, parce qu'il y a un réel intérêt à aller sur ce terrain-là, et aujourd'hui a priori c'est assez inexploité, donc il y a vraiment de grandes ressources potentielles pour s'améliorer globalement.
Tony, ça doit avoir un écho cette réflexion pour toi?
Oui, alors après c'est vrai que nous on parle plus d'air extérieur que d'air intérieur, mais c'est des sujets qu'on commence à regarder. On est souvent sollicité d'ailleurs par les collectivités aussi sur les sujets de purificateurs d'air, dont on parle beaucoup moins hein, maintenant. Ou de ventilation, mais bon, on n'est pas non plus des spécialistes. Mais par contre, je savais pas que c'était plus intéressant économiquement d'investir dans la, je dirais, l'amélioration de l'air intérieur que l'efficacité énergétique. Ça, je l'apprends pendant cette interview.
Ça veut dire qu'à un moment donné, il va pas falloir occulter l'efficacité énergétique. Hein, on en a vraiment besoin. On a les objectifs France-Europe qui nous amènent à 2050. Donc, il y a pas mal de sujets là-dessus. Et notamment dans ces objectifs-là, on voit bien cette amélioration de la qualité de l'air. Ça va nous amener... Ah oui, Francis, je te regarde. Je pense que ça va te tomber dessus. La directive européenne, celle qui vient de passer. Hein, Fabien aussi est très au fait du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours avec cette directive européenne?
Oui, alors attends, quand on parle de directives européennes, cette année, là, on a eu pléthore de directives qui ont été réévaluées. Hein, c'est ce qu'on appelle les RECAST. Alors, pour ce qui nous concerne, essentiellement, ben, il y en a deux. Donc, je pense que Fabien parlera tout à l'heure plus précisément de la directive sur la qualité de l'air qui concerne plutôt l'air ambiant. Mais il y a aussi la directive sur l'efficacité, la performance énergétique des bâtiments qui vient d'être... retraduite, en fait, hein, remise à jour au mois de mai, donc qui est en application depuis le mois de mai. Et donc, les États membres ont 2 ans pour la mettre en œuvre. Alors, ce qui est intéressant dans cette directive, c'est une approche nouvelle. Et c'est un changement de paradigme un petit peu pour le bâtiment. Parce que, justement, jusqu'à présent, toute la politique, disons, dans le secteur du bâtiment en Europe était basée sur l'efficacité énergétique.
Focus complet,
Focus complet. Depuis même la création de l'Europe, hein, qui était fondée sur les traités, sur l'énergie, en fait, hein, dès le début, les fondateurs de l'Europe. Et là, on change le fusil d'épaule, puisque c'est finalement l'impact environnemental des bâtiments qui revient finalement au devant de la scène. Alors, il y a 2 aspects essentiels pour nous, puis après, bon, si c'est nécessaire, on peut détailler, mais il y a 2 aspects essentiels.
On est là pour ça, hein, on n'est pas peur.
Le premier aspect, c'est qu'on doit, donc d'ici 2 ans, mettre en place en Europe des réglementations. Alors, les réglementations sur les bâtiments sont nationales. Hein, les directives ne sont qu'un cadre, finalement, de réflexion, hein, de recommandation. Elles ne sont pas directement contraignantes.
Donc les États membres doivent les adapter
à leur réglementation. Voilà. Et là, donc, ce qui est demandé, c'est justement qu'on évalue partout en Europe l'impact environnemental des bâtiments, essentiellement les émissions de gaz à effet de serre, qui devront être prises en compte dans toutes les réglementations européennes d'ici 2 ans. Alors, pour une fois, la France est un petit peu en avant, hein, on avait un petit peu devancé l'appel, là. Puisque bon, on a eu d'abord un label, hein, plus et moins, et puis la nouvelle réglementation... environnemental des bâtiments, et RE2020. Et le deuxième aspect qui nous concerne peut-être plus aujourd'hui, c'est que les États membres doivent aussi intégrer dans leur réglementation, finalement, des indicateurs permettant d'évaluer la qualité des environnements intérieurs. Alors, environnement intérieur, ça veut dire le confort global, enfin, moi, ce que j'appelle le confort global, hein, c'est-à-dire hygrothermique, lumineux, acoustique, et la qualité de l'air intérieur.
C'est pour ça qu'on
parle. C'est la première fois qu'on le voit apparaître dans une directive européenne. Donc maintenant, il faut voir comment tout ça va être retranscrit dans une réglementation française qui, jusqu'à présent, avait fait l'impasse, quoi.
Voilà. Oui, et puis on se retrouve aussi maintenant avec l'OQAI qui est devenu l'OQEI. On parle des environnements intérieurs. Oui. Hein, de même, les travaux qui sont faits sur CAP 2030, puisqu'on est aussi sur des niveaux de regarder 2030. CAP 2030, c'est des travaux 9GT qui regardent notamment l'adaptation au confort d'été, qui est une vraie contrainte. Désolé pour le temps qu'il fait en ce moment, on n'est pas trop dans le confort d'été, mais on a beaucoup de pluie. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, j'étais hier matin du côté d'Albi, 21 degrés à 6h du matin. Hein, on est quand même le 16 octobre, enfin on n'est pas, c'était hier, mais on a vraiment toutes ces évolutions et de tout cela on doit s'adapter et on doit effectivement anticiper. Fabien, justement, on glisse de Francis qui nous amène vers
la directive européenne sur l'air ambiant qui a été votée ces derniers jours. Alors c'est intéressant parce que je me suis rappelé quand il y a eu le vote de la directive européenne, les années 90, quand je démarrais un petit peu sur les sujets de la pollution atmosphérique, mon laboratoire à l'époque mesurait deux indicateurs depuis les années 50, depuis l'épisode de Londres. À cette époque-là, dans les années 80, au début des années 90, on considérait qu'il y avait peu d'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Et il y a eu un programme qui s'appelait Air Pur, évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé, qui a montré par des études épidémiologiques temporelles que, en fait, il y avait bien un impact de la pollution sur la santé. Et ce que j'ai noté à l'époque, dès cette époque, c'est qu'en fait, il n'y a pas de seuil de sanitaire à la pollution atmosphérique. D'abord, la pollution atmosphérique, c'est considéré comme cancérigène, particules fines, la pollution en général, atmosphérique. Et donc, en fait, définir des valeurs limites ou des valeurs seuils, ou des objectifs de qualité, c'est déjà accepter un risque pour certaines catégories de population qui vont réagir à l'augmentation des niveaux de pollution. Et des
différents polluants, parce qu'ils ne sont pas impactés de la même manière selon un polluant ou un autre.
Exactement, de cette soupe finalement de polluants qui existent à l'extérieur. Et donc des catégories de population vont réagir les premières. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes respiratoires réagissent beaucoup plus tôt que les autres au niveau de pollution. Et donc l'OMS a défini en 2021 des niveaux de qualité qui sont de plus en plus bas par rapport au PM2.5, par rapport au dioxyde d'azote, mais en fait, ce serait zéro qu'il faudrait avoir comme seuil, mais déjà, on se rapproche finalement avec des niveaux très très bas.
Alors, c'est pour ça ce qu'on dit sur l'émission bien souvent, c'est que notre qualité de l'air s'améliore parce qu'au vu justement de ces niveaux qui diminuent, mais finalement on a encore des niveaux qui sont élevés,
donc il y a encore
du chemin à faire, mais on abaisse pour aller progressivement vers du mieux.
Et voilà, pour essayer d'améliorer encore mieux la qualité de l'air extérieur, et donc c'est des enjeux importants, parce que si on voit les cartes aujourd'hui des principales associations de surveillance de la qualité de l'air, on s'aperçoit qu'avec les PM2.5 aujourd'hui, on ne respecte absolument pas les niveaux qui nous sont demandés avec les échéances qu'a pris la directive européenne. Alors on n'a pas pris les valeurs de l'OMS directement, mais on y va, c'est-à-dire par palier, on va aller vers ces niveaux proposés par l'OMS, considérant que ce sont déjà des niveaux de qualité les plus bas possibles. Et donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux très importants. Ça veut dire qu'il va falloir modifier de manière très drastique nos modes de vie, notre façon d'envisager les choses, pour respecter
nos consommations, nos déplacements, nos générations énergétiques.
Tout va être repris en compte. Et je ne suis pas convaincu que la population ait cette notion-là qu'il va falloir faire encore plus d'efforts. Car quand on nous dit que la bataille est gagnée, que les niveaux ont baissé, etc., sauf l'ozone, hein, je rappelle que l'ozone reste à des niveaux toujours stagnants, mais que les niveaux ont baissé, etc., et que c'est pour le mieux, etc., non, il y a encore des choses à faire, car la directive européenne nous impose, dans les années qui viennent, des valeurs encore plus basses. Et donc, ça veut dire que il y a tous des enjeux, à la fois politiques, des moyens, pour les ASQUA des moyens de surveillance aussi, parce que là on parle des polluants réglementés.
Les ASQUA sont quoi, Fabien, pour
les
nos auditeurs?
Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui sont associées dans la fondation Atmo France, et ces associations qui surveillent de
elles sont régionales,
systématique. Oui. Tout ça, c'est par région, qui surveillent la qualité de l'air extérieur avec des stations de surveillance, devront aussi rechercher d'autres types de polluants. Parce que ce qu'on a montré actuellement, on parle des PM2.5, on parle du dioxyde d'azote, bon, du dioxyde de soufre également, mais il y a d'autres polluants qui sont présents dans l'air extérieur. On parle aujourd'hui des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des particules ultrafines, du black carbone, et tout ceci n'est pas mesuré. Et donc la directive
donc
européenne,
pas considéré.
Et voilà, nous impose de faire ces mesures de ces polluants dits émergents. Alors je veux bien émergents, on les connaît déjà depuis un certain nombre d'années, mais ça veut dire que voilà, donc il y a des contraintes nouvelles. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on ait encore pris conscience de ce qu'on devra faire dans les prochaines années.
Eh bien, je pense qu'on va nous pousser pour que ça soit pris en conscience de plus en plus, notamment par rapport à l'extérieur. Et cet air extérieur, tu évoquais, Fabien, les niveaux de l'OMS. Hein, il y a un petit chiffre quand même qui est assez éloquent. 96,3% de la population mondiale vit dans des zones avec des seuils de dépassement des particules fines.
Et oui.
Donc,
des pathologies, parce qu'on parle de la santé, il y a des pathologies derrière, et bien connues aujourd'hui. Aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances scientifiques sur le sujet de la pollution, et notamment par les particules fines, par rapport à toutes les maladies. On parle d'aspects cancérigènes également, du cancer du sein, d'autres cancers bronchiques, etc. Ouais. Des maladies neurodégénératives, etc. Donc aujourd'hui, on a un panel de pathologies au-delà des maladies respiratoires chroniques. Donc je pense que les enjeux sont très importants. Et pourtant, j'ai le sentiment que quand on va réduire de 50 km à l'heure la vitesse sur le boulevard périphérique, tout le monde râle, mais parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qui se passe aujourd'hui.
Fabien, c'est génial, parce que moi, ça me donne la transition avec Tony, où je vais te donner la parole, mais j'aimerais juste rajouter un petit point. J'étais sur une conférence il n'y a pas très longtemps, et avec le ministère du Travail, et qui était en train de nous expliquer au travers des polluants qu'on ne voit pas. Puisque la plupart du temps, hein, nos polluants dans l'air sont quasi invisibles. On dit toujours qu'il faut rendre visible l'invisible. Et on va parler un petit peu du radon. Et la personne du ministère du Travail était en train d'expliquer qu'une zone comme le Doubs, côté de Besançon, est une zone qui est classée en catégorie 1 au niveau de l'émission et du niveau de présence de radon, au-delà des 100 becquerels latentes. Et après, elle devient beaucoup plus forte quand ça stagne dans les bâtiments. C'est connu, et puis c'est un cancérigène avéré au travers du cancer du poumon. Hein. C'est 3 à 4 000 décès par an, c'est pas anodin. C'est la deuxième cause après le cancer du cigarette, la tabacologie. Il était en train d'expliquer qu'on va devoir reprendre en compte de manière assez importante. Ils sont aperçus dans des sols sablonneux, parce que c'est surtout des sols granitiques dans lesquels on retrouve, mais sur des sols sablonneux, il y a des cavités qui sont en dessous, et ces cavités sont pas anodines du tout. Donc du coup, un département comme le Doubs va se retrouver là en zone 1, et ils vont requalifier, ils vont revoir tout ça, parce qu'il va être majoritairement, pas la totalité, mais majoritairement en zone 3. Et on sait qu'en zone 2 et en zone 3, on doit, dans les établissements recevant des travailleurs en zone 2, ça doit être traité. Il y a la réglementation on parle de réglementation, Sylvain, où on doit agir. Et en zone 3, c'est les établissements recevant du public qui doivent être traités. D'où les décrets de surveillance de la qualité de l'air dans les écoles, dans les lieux, je dirais, les crèches, les bureaux, et aussi les enceintes sportives fermées pour le coup. Et là, on va avoir deux sujets. On va prendre le premier avec Tony. On reviendra sur les 50 km/h, mais on va rester un petit peu dehors.
Un petit mot sur le radon, s'il te plaît.
Il n'y a pas de problème.
En fait, le radon, on a tendance à l'oublier. Je rappelle que le Haut Conseil de Santé publique a fait une évaluation des plans santé et environnement et un chapitre sur le radon pour montrer son importance. Et le radon devrait être un indicateur parmi les autres indicateurs de qualité de l'air intérieur. C'est quelque chose qui devrait être mesuré systématiquement. C'est pas compliqué à mesurer.
C'est pas très cher à mesurer.
Exactement.
En plus. Il ne faut pas l'oublier.
Ces zones dont tu parles, effectivement, elles peuvent être requalifiées parce qu'il y a des poches qui peuvent exister. Et donc, la mesure du radon dans les bâtiments devrait être un peu plus systématique. En tout cas, moi, je considère que le radon devrait faire partie des indicateurs à mesurer pour la qualité de l'air intérieur.
Et devrait en faire partie et ne pas le balayer d'un revers de la main quand on en parle. On a une, deux, trois expériences avec Fabien ensemble là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne le fait pas ou qu'il ne faut pas agir. Ça, c'est aussi très important. On reste, on reste dehors parce que l'air qui est extérieur est toujours, meilleur par rapport à celui de dedans. Enfin, faut enfoncer une porte ouverte, mais on va laisser passer l'air par la porte ouverte. Et on va avoir cette ambiance extérieure avec notamment Tony, avec l'association Respire. Une étude hein, qui est déjà sortie il y a quelques temps, qui concerne les terrains de sport de la région parisienne.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que cette étude nous apprend ?
Alors, cette étude, on l'a sortie juste avant les Jeux Olympiques. L'idée, c'était de montrer les liens entre sport et pollution qui sont finalement peu abordés et de rappeler que donc, faire du sport, c'est bon pour la santé, hein, personne n'en doute, mais que faire du sport dans des zones polluées, et notamment lorsqu'on a certaines vulnérabilités, ça peut être dangereux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données d'Air Paris, on les a comparées aux localisations des enceintes sportives en plein air, Paris et proche banlieue et site olympique, et on les a comparés au nouveau seuil justement de l'OMS, et y compris de la nouvelle directive. Alors on avait anticipé l'adoption, tant mieux. Et donc ce qu'on voit, c'est quand même assez inquiétant. Donc on a observé 112 sites, hein, et dont notamment ceux qui sont à proximité du périphérique.
112 qui représentent vraiment la un schéma, toute implantation à tout point. On n'a pas créé de zone blanche, on a vraiment pris globalement.
Oui, alors on n'a pas pris tous les sites de la région Île-de-France, en tout cas on a pris tous ceux qui sont à Paris et proche banlieue, parce qu'on voulait notamment voir les 37 sites qui sont aux abords du périphérique.
Voilà. Avec un maillage serré quand même.
Oui. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a la majorité, enfin déjà la totalité des sites, quasi-totalité des sites qui dépassent les recommandations de l'OMS, tout polluant confondu. Et on voit aussi que la très grande majorité sont tous situés aux abords du périphérique. Quand on dit aux abords du périphérique, c'est moins 500 mètres à moins de 500 mètres du périphérique.
Alors, pourquoi le moins de 500 mètres ? Parce qu'il faut savoir qu'en termes d'aéroportée, hein, de, par le vent, par les différents mouvements. Il ne faut pas oublier non plus qu'un périphérique qui a de la fluidité et qui circule, il déplace beaucoup d'air.
Oui.
Hein, et ça en emmène aussi assez loin. Donc le 500 mètres, c'est quand même, quand on regarde un petit peu au regard d'un bâtiment, quels peuvent être les impacts de l'air extérieur dessus, on peut aller jusqu'à des 500, 1 km à la ronde qui peuvent avoir un impact. Donc voilà pourquoi aussi il faut regarder de manière assez vaste.
Exactement. Et alors, par exemple, quand on regarde, on a regardé de 2012 à 2023, quand on regarde le top 10 des stades les plus pollués sur 2012, on voit que les niveaux de dépassement étaient 5 à 8 fois au-dessus par rapport aux recommandations de l'OMS sur le dioxyde d'azote. Et quand on compare en 2023, alors on est 3 à 4 fois au-dessus, donc ça a progressé, mais comme la qualité de l'air hein, qui a progressé en Île-de-France, mais on reste quand même très au-dessus. Et je pense notamment au stade le plus pollué hein, qu'on a mesuré, c'est celui de la Porte d'Anières, les terrains de tennis de la Porte d'Anières qui sont au-dessus du périphérique. Donc on joue quand même au tennis en plein air au-dessus du périphérique, ça paraît quand même assez délirant.
Et puis ces polluants-là, ils ont tendance à remonter, donc on est directement dans le nuage de pollution.
Et donc là, on est 3 fois au-dessus sur les particules fines, 4 fois au-dessus sur le dioxyde d'azote. Donc tout ça, c'est très inquiétant et c'est d'autant plus dangereux qu'on sait, par contre, la littérature scientifique démontre les conséquences sanitaires de cette exposition quand on fait du sport. On sait que quand on pratique une activité sportive, on aspire 4 à 10 fois plus de polluants et on augmente le risque d'accidents cardiovasculaires, d'accidents respiratoires. Pourquoi ? Parce que la fréquence cardiaque est aussi plus élevée et ça a même un impact sur la performance sportive. Il faut savoir qu'il y a une prévalence de l'asthme chez les sportifs de haut niveau, ça a été démontré hein, par les instances olympiques. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir informer sur cette pollution et en même temps d'amener des recommandations. La première chose, c'est qu'il faut cesser de construire des établissements sportifs en plein air à proximité des gros axes routiers. Alors ça paraît un peu...
Et en regardant le sens du vent général, les vents
aussi,
dominants.
Hein, alors ça paraît un peu une évidence de le dire et pourtant il y a encore aujourd'hui des chantiers qui se font. Je le vois même chez moi, Joinville-le-Pont, on construit une aire sportive à côté de l'autoroute A4, ce que je trouve délirant. Et c'est très important de le rappeler à la fois aux décideurs publics, mais aussi de se dire que, parce qu'on ne va pas déconstruire ou détruire tout ce qui est déjà fait, hein. Bon, malheureusement, la plupart des stades, de toute façon, sont à proximité des gros axes routiers, mais il y a quand même des solutions possibles, notamment lorsqu'il y a un pic de pollution, d'annuler une compétition sportive ou de la reporter. C'est tout à fait possible de le dire, on peut la faire le lendemain, ou à des horaires où on aura moins de pollution, parce qu'on sait aussi que les pics, en tout cas ceux qu'on observe sur le périphérique, sont plutôt entre 7h et 10h, entre 16h30 et 19h30, donc on peut aussi reporter. On peut penser aussi aux cours d'éducation sportive des écoliers, de les mettre à des heures où on a moins de pollution. Et Je pense qu'il faut même, dernière chose, quand on a des pics de pollution, intégrer aussi ce message sur les pratiques sportives. Alors, je pense que certaines régions le font.
Elle peut
plus.
Être différenciée justement pour s'adapter par rapport, continuer à faire une activité modérée.
Oui,
qui
alors,
est tout à fait possible. On ne dit pas de ne pas faire de sport, on dit qu'il faut s'adapter.
Ça peut être aussi une activité de plus faible intensité, en plein air, j'entends bien. Mais c'est sûr que si on va faire un footing à un moment où il y a beaucoup de pollution, c'est mauvais pour la santé. Si on va faire un foot ou un tennis, des activités qui sont très cardio, comme on dit, ce sera mauvais pour la santé ou s'il y a un pic de pollution, en tout cas dans des zones où on a des niveaux de pollution élevés.
Ça m'amène à deux pensées. La première, c'est donc on respire 4 à 10 fois plus sur nos fréquences et sur nos besoins, parce que nos organes, ils sont alimentés par de l'oxygène, il faut quand même le savoir, majoritairement, quand on fait un effort, donc il va falloir en faire rentrer beaucoup plus, et là, on est à des niveaux de pollution que tu disais 8 fois plus, et on respire 4 à 10 fois plus. J'ose pas imaginer le cocktail que l'on est en train d'absorber.
C'est énorme.
C'est vraiment colossal, et ça me fait penser aussi, en passant à Lyon la semaine dernière, on a la tour de Lyon qui s'allume en fonction des niveaux
à Grenoble aussi.
À Grenoble aussi, au niveau des pics de pollution, qui vont dire qu'elle est verte, elle est orange ou elle est rouge. Ouais. Donc ça peut être, à un moment donné, ça peut être quoi? Ça pourrait être le même type d'appareil plus, localisé, qui va nous permettre de dire, je rentre dans mon enceinte sportive, à ce moment-là, je sais que je rentre en connaissant que l'air, il va peut-être être pas optimal pour aller chercher une grosse performance sportive, puisque sur l'émission RN Sport, que j'ai eu le plaisir d'animer aussi, j'avais reçu l'entraîneur de l'équipe de France de basket, qui disait qu'à un moment donné, les capacités de nos jeunes ont diminué de 30% en endurance et en résistance, avec les années. Alors ça, c'est la sédentarité, mais si on rajoute encore ce phénomène-là, on s'aperçoit qu'on est en train d'améliorer peut-être notre qualité de l'air d'un côté, mais on régresse nos capacités physiques et nos capacités physiologiques. Parfait. Donc c'est vraiment à prendre en compte avec attention. Ça t'inspire quoi, Sylvain ?
Moi, j'aime vraiment cette idée de communiquer sur ces niveaux. Nous, on fait de la certification, on fait de la qualité, on fait du lean, et un principe qui est primordial, c'est ce que tu disais, rendre visibles les problèmes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler pour aussi rendre visibles ces problèmes et donc faire en sorte que le public, tous les acteurs puissent être conscients de ces niveaux. Et donc moi, je suis vraiment un supporteur du fait de pouvoir mettre des indicateurs CO2, particules, dans les écoles, partout, pour que les gens puissent se rendre compte, effectivement, qu'il peut y avoir des problèmes, connaissent les niveaux et effectivement sachent quand on est au-dessus du niveau pour ouvrir les fenêtres ou pour arrêter des activités. Je pense que c'est vraiment primordial.
Donc on est sur deux points, la connaissance scientifique, la connaissance technique, mais on est aussi surtout sur une vraie prise en compte de formation et d'éducation. Donc ça voudrait dire que cette part de connaissance de notre air, de notre qualité de l'air intérieur comme extérieur, ben on va peut-être faire un petit peu comme les ateliers qu'on a eu dans les écoles pour les composts pour les enfants. Et c'est peut-être à déployer un peu plus fort. Mesdames et messieurs des ministères de l'Éducation nationale, peut-être il y a une piste sympathique pour se sentir mieux. Un petit mot, oui, Fabien, et puis avant la coupure.
Oui, je voulais rappeler que le Haut Conseil de la Santé publique a publié un avis sur des messages sanitaires, parce que communiquer sur les niveaux de pollution, c'est une très bonne chose pour faire prendre conscience, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi donner les conseils qui correspondent, et comme on vient de le dire à l'instant. Et donc le Haut Conseil avait fait un avis sur les messages sanitaires en fonction des niveaux de pollution. C'était juste avant les Jeux Olympiques, c'est justement des messages à la fois pour la population, mais aussi le public qui allait venir au moment d'épisodes de pollution. Donc des tas de messages, de conseils que l'on peut donner, et en particulier toujours pour les plus fragiles d'entre eux, leur demander de prendre plus de précautions en matière d'activité physique. Et je pense que limiter son activité physique en cas de période de pollution, c'est important de rappeler qu'on va inhaler, comme on vient de le dire, beaucoup plus de polluants. Et donc, c'est important de le signaler. Parce que ces polluants, finalement, vont s'accumuler. Ils vont pas disparaître. Ils s'accumulent au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, avec un état inflammatoire au niveau bronchique qui se met en place, ces pathologies chroniques qui apparaissent progressivement. Donc, le fait d'inhaler des polluants n'est pas bénin. On va les accumuler au fur et à mesure. Donc, limiter son exposition à la pollution, s'adapter aux situations, c'est vraiment des conseils que l'on peut donner au public.
Très bien, Fabien. On en reparlera juste après la petite pause, parce que ça va nous amener à reparler justement de Charente-Maritime, peut-être un petit peu, Francis, cette petite histoire d'actualité, même si nous, on évite l'actualité. Mais là, grave, franchement, de retrouver des enfants qui sont atteints. Ça rejoint aussi ces concentrations, ces accumulations, et qu'on va retrouver très longtemps dans notre corps. Étant donné que Sylvain est le petit nouveau de l'émission, invité, bah, le morceau que nous allons entendre maintenant, c'est Eye Without a Face de Billy Idol, et on se retrouve juste après, choisi par Sylvain. Merci.
Rise without a face, such a human waste. Rise without a face.
Terre, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis ravi de vous retrouver pour ceux qui étaient sur la première partie de l'émission. Une émission, je vous le rappelle, dans le cadre de la semaine de la qualité de l'air, pour lequel chaque année on ouvre grand, je dirais, nos perspectives, nos réflexions vis-à-vis de l'air extérieur, de l'air intérieur, des impacts dans nos vies, de l'impact sur notre santé, bien entendu, et comment surtout positivement faire mieux et le prendre en compte et en conscience et en compte pour mieux agir. Alors autour de la table, toujours avec nous, Fabien Schinazzi du Haut Conseil de la Santé publique. Rebonjour Fabien. Tony Renucci, le directeur de l'association Respire.
Rebonjour.
J'entends beaucoup parler de Respire et tant mieux parce qu'on voit beaucoup d'avancées pour ces dernières années. Francis Allard, cher Francis.
Bonjour à tous.
Président de Tipeee. Oui. Qu'est-ce que c'est que Tipeee?
C'est une plateforme technologique qui est dédiée, disons, à la recherche et au transfert de l'innovation dans les bonnes pratiques, dans le secteur du bâtiment.
Les bonnes pratiques dans l'innovation. Pas de l'innovation pour de l'innovation, mais l'innovation pour un but.
Voilà. Et surtout, le transfert d'innovation, parce que c'est le problème en France. En France, dans le secteur du bâtiment, on manque pas de chercheurs de qualité, on manque pas d'innovation. Mais le gros problème que nous avons à résoudre en France, c'est le transfert de ces innovations dans les bonnes pratiques professionnelles.
Dans leur applicabilité, en somme.
Et c'est pour ça que suite, alors c'est vieux, au Grenelle de l'environnement, il avait été décidé de créer en France une dizaine de plateformes dont l'objectif était celui-ci, c'est-à-dire faire à la fois de la recherche en partenariat sur des grands projets, etc., de l'aide, disons, à l'innovation et de la formation.
Voilà. Parce qu'il faut faire passer la formation, donc il faut former.
C'est dans ce cadre-là qu'a été développé Tipeee à l'époque, qui était au sein du laboratoire de l'Université de La Rochelle que je dirigeais à l'époque. Et puis qui est maintenant une société indépendante dont le premier actionnaire est l'université.
Donc un scientifique qui est parmi nous, un scientifique qui a fait beaucoup de choses, qui a été dans beaucoup d'instances de partout. Je laisserai les auditeurs regarder sur internet qui tu es. Ça nous amène loin, mais c'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous, mon cher Francis, parce que il faut vraiment regarder les choses de manière multi-prisme, multi-angle, pour savoir exactement où on va. Et avec nous aussi notre cher Sylvain Courtais, qui est le président du directoire de Eurovent Certita Certification, avec beaucoup de bonnes choses, notamment une prise en compte européenne pour la première fois sur l'adéquation, on en parlait sur le début de l'émission, sur un euro investi dans la qualité de l'air, en fait, c'est 100 fois mieux, enfin c'est 100 fois plus de retour sur investissement que si on met un euro investi dans l'énergétique. Et justement, le travail que vous avez fait sur l'IAQVS, c'est d'amener ce lien entre une qualité de l'air de système de ventilation, de traitement dans le bâtiment, avec le performance énergétique associée. Et ces équilibres-là sont à regarder, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et on est obligé de ne pas créer un travers de l'un pour ne avoir derrière un travers de l'autre. On revient juste avant ce qu'on évoquait par rapport à l'émission. On parlait évidemment de la pollution extérieure, avec ce qu'on retrouve autour des enceintes sportives, et on parlait notamment des enceintes les plus impactées qui étaient avec des terrains de tennis au-dessus du périphérique. Donc là, c'était la charge, la triple quadruple peine, on peut dire ce qu'on veut au vu de nos volumes respiratoires dont on a besoin quand on fait un effort conséquent. Mais on va avoir aussi justement ce périphérique, et là on est en plein dedans, 50 km/h sur le périphérique. Plusieurs avantages, plusieurs contraintes peut-être également, mais surtout un besoin de regarder, de bien l'expliciter, parce que c'est pas du tout bon ou du tout mauvais. Il y a un moment donné, il y a de vraies perspectives grâce à ça. Tony.
Oui, avant de parler des 50 km/h, je pense que c'est important de rappeler que le périphérique, c'est un sujet sanitaire. C'est quand même 500 000 personnes qui vivent aux abords du périphérique, c'est plus d'un million de trajets en voiture par jour. Donc le périphérique est un objet de nuisance en termes de pollution atmosphérique, en termes de pollution sonore, en termes d'accidentalité. Et donc ce qu'il faut viser, c'est la transformation du périphérique à long terme pour en faire un boulevard urbain et pas laisser finalement cette espèce d'anneau de voie rapide un peu à part. Et donc les 50 km/h, c'est une des mesures qui vise la transformation. Alors après, quand on parle des 50 km/h, parce qu'on nous pose beaucoup la question, quel impact sur la qualité de l'air, etc. Déjà, la première chose, c'est qu'en réduisant la vitesse, on réduit la consommation de carburant. Donc déjà, on a un impact positif à la baisse sur les émissions de CO2, ce qui est quand même aussi important. On a un impact aussi positif à la baisse sur la pollution sonore, puisqu'on va consommer moins, et également sur l'accidentalité, notamment en cas de choc. Sur les émissions de polluants, de ce que montrent en tout cas les études et ce qu'explique aussi Air Paris, c'est vrai que l'impact est peut-être plus marginal à court terme, et notamment parce que entre 30 et 70 km/h, c'est le fonctionnement optimal d'un moteur. Donc, c'est pas forcément une mesure qui vise en premier lieu, à court terme en tout cas, directement, la qualité de l'air. Mais là où ça va être intéressant, c'est de regarder...
Là, on parle des émissions directement issues du moteur.
Exactement.
On parle pas des émissions qui peuvent venir aussi, parce que Francis, en tant que scientifique, il y a l'usure des pneus, l'usure des freins. Donc
tout
là, il y a aussi
non,
ça. Voilà, il y a d'autres paramètres qui viennent s'adjoindre.
Mais ce qui va être intéressant de voir dans cette mesure, c'est... comment est-ce que le trafic va s'adapter? Parce que quand on a réduit à 70 km/h, on a vu quand même une fluidification du trafic, on a vu aussi une baisse du nombre de véhicules en circulation, et si on observe ces mêmes phénomènes-là en passant à 50 km/h, on aura aussi un effet positif, bien sûr, sur la qualité de l'air, et donc notamment sur les concentrations de polluants.
Fabien, peut-être un petit mot par rapport à cela.
Effectivement, je disais tout à l'heure...
C'est un vrai débat. Hein.
Oui, je parlais de la directive européenne et des objectifs que l'on se donne. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Et donc, effectivement, modifier la circulation automobile, on voit dans les études au niveau international que cette réduction de la circulation automobile apporte des bénéfices sanitaires. Donc, il y a plein d'études qui le montrent. Après, moi, je comprends très bien, mais l'intérêt de vouloir réduire les niveaux de pollution, même si c'est à la marge, c'est aussi une manière aussi de voir un petit peu la circulation dans une ville. Mais je me pose d'un autre côté, c'est la perception du public et la compréhension. Et souvent, peut-être, on n'explique pas suffisamment. J'étais il y a quelques jours avec un chauffeur de taxi qui comprenait pas pourquoi on avait réduit la vitesse à 50 à l'heure. Et donc, voilà. Et alors que j'ai tenté de lui expliquer ce qu'on vient de dire, que c'était pour la santé de nos concitoyens, des personnes qui vivaient autour du périphérique, il avait du mal à comprendre. C'était un jeune qui n'était pas malade, évidemment, on n'avait aucun problème de santé, et avait du mal à se projeter. Et lui, c'était finalement, moi, je veux circuler, je veux aller vite d'un point à l'autre. Mais voilà, j'ai tenté de lui expliquer que, bien sûr, c'était important d'aller vite d'un point à l'autre, mais qu'il y avait le respect aussi des autres, et que c'était pas que pour soi-même, mais il y avait tous ceux qu'il fallait protéger tout autour. Et en tant que médecin, mon rôle aussi, c'est de protéger, faire de la prévention également. Donc je trouve que ces mesures qui sont proposées, qui sont données, peut-être mériteraient d'être mieux expliquées.
Certainement.
Mais si on donne les explications... Je pense qu'on va pouvoir le comprendre. Mais il faut pouvoir l'expliquer. Et souvent, on a l'impression que ça arrive comme ça, brutalement. On décide, ça vient du haut. Et on n'a peut-être pas pris le temps de bien expliquer les choses. Et donc, on a effectivement une mauvaise perception. Je parlais tout à l'heure, entre nous, d'exaspération. Parfois, on arrive à une mauvaise perception, une exaspération des personnes qui sont dans la ville. Et à un moment donné, ça entraîne évidemment des conflits entre les personnes et des difficultés de cohabitation. Donc, je pense que c'est important de bien expliquer et de quand on prend des mesures aussi radicales. Mais de toute façon, comme je disais tout à l'heure, les mesures doivent être prises. Il faut les prendre, mais il faut aussi bien les expliquer.
Oui, et puis cette part de pédagogie, évidemment, ça va nous amener à reprendre du temps de réflexion. Hein, tu le disais, Fabien, aller vite, moi je dirais qu'aller vite, c'est pas forcément aller mieux. Donc peut-être on peut le retenir, parce que on s'aperçoit, alors peut-être c'est les années qui nous apprennent ça aussi, mais en faire beaucoup pour en faire moins que quelqu'un qui va moins vite, et quelque part... Il y a du mieux. Il faut le regarder dans tous les domaines. Hein. On peut pas généraliser ça non plus. Oui. Mais c'est vrai que savoir s'arrêter au bord du chemin quelques instants et de regarder pour mieux analyser et aller chercher l'intérêt du sujet. Et ça nous ramène aussi à notre rapport à l'autre. à un moment donné, on n'a plus de rapport à l'autre, puisque tu parlais d'exacerbation des réactions hein, violentes, hein, vives, on l'a eu, le pauvre cycliste, ces jours derniers, notamment. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus en capacité de comprendre l'autre, parce qu'on ne s'arrête pas pour essayer de le comprendre. Alors que la richesse des cultures, quand on les échange, hein, tous ceux qui voyagent énormément dans le monde le savent bien, hein, échanger avec d'autres et d'autres manières de voir, c'est extrêmement riche et ça remet un peu d'humilité, mais ça nous apprend d'autres voies plutôt que de foncer dans un tunnel et sans savoir ce qui va se passer et on ne sait même pas ce qui va être au bout de ce tunnel.
Je résumerai en disant prendre 100 ans. Il faut prendre 100 ans.
Prendre son temps, ce n'est pas le perdre.
Eh oui.
Ça c'est important, prendre son temps ce n'est pas le perdre. Justement pour prendre le temps et pour regarder sur ces réflexions et se donner je dirais des ouvertures d'esprit, des ouvertures de pensée, d'échange notamment de s'écouter, de se parler et de si on nous parle qu'on écoute celui qui nous parle et inversement une petite chose en me tournant vers toi Fabien et toi Francis. On va parler du CRQA. CRQA qui est, comment le qualifier, un endroit de réflexion, bien entendu. Hein, c'est le cercle de réflexion sur la qualité de l'air qui est né il n'y a pas très longtemps et qui officiellement aujourd'hui est annoncé en existence. Lequel de vous deux veut...
Non, c'est
Fabien.
C'est un groupe finalement de personnes qui se sont réunies volontairement avec des générations différentes. C'est important aussi que les jeunes puissent s'exprimer sur ces sujets et de partager avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience et de temps qu'ils ont eu pour s'intéresser à ces différents sujets. Et donc ce cercle, finalement, c'est une manière d'échanger, de partager des sujets et de rédiger, en fait, des notes de réflexion sur différents types de sujets. Le premier sujet qui a été choisi, c'est la qualité de l'air intérieur, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est important, parce que, en fait, la qualité de l'air intérieur, ça concentre tous les sujets. Ça vient de l'extérieur. Pour moi, c'est comme des cercles concentriques. Je disais tout à l'heure que l'air intérieur, c'était l'air
dans les poumons. Le premier dans nos poumons, oui.
Mais ensuite, c'est des cercles concentriques. Il y a un cercle autour de nous, puis ensuite l'air extérieur. Et il y a des relations entre ces différents cercles. Et donc, s'intéresser à ces différents niveaux de pollution pour améliorer la qualité de vie des personnes. Voilà. Donc, réfléchir à la qualité de l'air dans nos bâtiments, dans nos infrastructures, et de proposer des indicateurs pour les mesurer et de dire quels conseils on pourrait donner pour améliorer notre air intérieur et donc cet air que nous avons dans nos poumons, eh bien c'est une manière de se retrouver entre nous et de réfléchir avec des personnes qui ont des expériences très différentes, mais dans le sujet commun, c'est la qualité de l'air. On se retrouve sur ce sujet, tous ensemble, pour essayer de réfléchir, d'où le terme cercle de réflexion sur la qualité de l'air.
Oui, et ce cercle avec, je l'ai là, des travaux exclusifs de réflexion d'intérêt général. C'est important pour des sujets liés à la qualité de l'air extérieur et intérieur et avec des objectifs de progrès, de prise en compte pour les concitoyens en bienveillance envers eux. L'objectif principal, donc, c'est pour tout un chacun, quel que soit son niveau de santé, quel que soit, tu le disais Fabien, cet échange et ce partage entre les générations et les savoirs, parce que ça peut être aussi des personnes qui peuvent échanger et qui sont de simples... On n'est jamais simple, on est toujours composé tous ensemble, mais qui sont des particuliers avec qui on va leur demander leur avis, finalement, éclairé sur le sujet et comment ils le perçoivent. Parce qu'à un moment donné aussi, si on a, tu le disais Francis, les scientifiques d'un côté, les techniques de l'autre, on va avoir les associations comme toi, Respire, Tony, qui poussent sur le sujet, le monde de la santé, Fabien, ou le monde aussi du travail à côté et autres, ben, à un moment donné, il va falloir qu'on ait des équilibres qui s'opèrent sur ces niveaux-là et qu'on va devoir pouvoir se parler les uns les autres et surtout se faire comprendre les uns envers les autres. Parce que souvent, tu le disais, si c'est pas accepté, c'est rejeté. Ouais. Alors qu'il y a un intérêt qui est derrière.
Un bénéfice évidemment évident pour notre qualité de vie, pour notre santé. Donc voilà, c'est une manière aussi de se retrouver, de se parler entre nous. Et avec des personnes, comme j'ai dit, qui viennent d'horizons très différents, qui ont le même sujet ensemble sur la qualité de l'air. et donc de faire des propositions, des recommandations. Il existe plein d'associations sur le sujet. Là, c'est véritablement un petit groupe qui se réunit, d'experts, et qui essaye de faire avancer le sujet.
Des experts, des scientifiques, du monde de la santé, du monde de l'expertise judiciaire même, puisque on va regarder ce qui se passe dans la qualité de l'air, mais on va regarder les impacts aussi qui sont associés. Et donc, ce sont des notes de réflexion qui sortent. Francis, ces notes de réflexion, elles ont vocation à être utilisé comment ensuite à être donné ou partagé.
Je vais pas paraphraser ce que vient de dire Fabien. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, en aucun cas le CRQA se met là en juge de paix. Hein. C'est un cercle de réflexion, c'est-à-dire que on doit dans nos notes de réflexion arriver à un consensus finalement sur des sujets. Et l'idée, c'est à partir de ce consensus proposer finalement une note de réflexion, qui peut être une recommandation à usage
de tous ceux qui en auraient besoin.
Hein. Et puis on essaie aussi de faire en sorte que ce message soit audible par tous les concitoyens. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans nos chapelles de sachant, soit en médecine, soit en transfert. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu l'objectif et c'est pour ça que moi je l'ai rejoint avec beaucoup d'enthousiasme. Hein, parce que je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué, j'allais dire, dans ma carrière. Hein, c'est de pouvoir confronter finalement des idées avec d'autres cercles finalement. Hein, que, bon, nous on travaillait essentiellement sur les aspects de prédiction des concentrations, c'était l'objectif de nos travaux hein, au labo. En prenant en compte tous les phénomènes physiques ou chimiques qui peuvent produire des polluants ou les transférer.
Bon. C'est pas un échange en silos. C'est pas des silos, c'est vraiment.
Et donc là, un nuage. On est confronté, mais on s'aperçoit que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice finalement. Hein, il y a effectivement les aspects technologiques. Il faut prendre en compte le contexte global. C'est ce que disait tout à l'heure Fabien. Hein. On ne peut pas faire évoluer une société si, justement, on ne l'implique pas. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est de faire de la diffusion d'informations, mais j'allais dire d'informations qualifiées, en quelque sorte. Voilà.
Oui, parce que c'est aussi basé sur des études et des expériences scientifiques ou des retours qui sont quand même marqués, notamment. Par rapport à ça, une première note de réflexion qui devrait sortir dans quelques temps, peu près quand ? Parce que je sais qu'il existe déjà le site internet du CRQA, hein, oui, www.crqa.org.
On y travaille, donc on avance.
On avance.
Voilà, en fait, cette note aussi, je dirais qu'on veut faire de la pédagogie. C'est important aussi, parce qu'on s'aperçoit que la population connaît mal ces sujets, lit plein de choses différentes, entend plein de choses différentes.
Ils sont peut-être perdus quelquefois aussi.
Et on voudrait finalement avoir quelque chose reposant sur des arguments scientifiques et bien établis, faire un peu de pédagogie sur ce sujet parce qu'on entend énormément de choses. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut dire un petit peu les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer.
Ah, parfait. Un petit mot de chacun pour la fin, puisqu'on arrive à la fin. Ça passe vite, tu disais, hein, Sylvain. Bah, écoute, dernier arrivé, mes premiers, les derniers seront les premiers inversement. Un petit mot juste pour la fin, en quelques secondes.
Je dirais,
perspectives.
Moi, je repose les perspectives. Je dirais que on voit que, comme disait Francis, les technologies existent. On sait comment bien faire. Après, il faut mettre en œuvre tout ça. Et je pense qu'un des points clés, c'est de montrer au grand public, effectivement, les enjeux derrière, pourquoi c'est important. Et puis aussi, les différents acteurs, pourquoi aussi ils ont intérêt à y aller, à investir dans la qualité de l'air intérieur et à investir dans ces équipements des moyens de mesure qui pourront faire en sorte d'améliorer les choses. Donc, je pense qu'effectivement, un cercle de réflexion, la communication, de l'explication... C'est vraiment ce qui manque. Aujourd'hui, on a les moyens de faire avancer les choses. Donc, je suis plutôt très optimiste.
Et on a les cerveaux.
Francis, évidemment.
Comme tu disais. Merci, Sylvain. Petit mot de,
oui, mot de conclusion.
Voilà, peut-être, on avait dit qu'on évoquerait les pesticides dans ton secteur sur les enfants. Alors, quelques instants.
Fabien disait, dans le domaine de la qualité de l'air, c'est le thermomètre qui fait la maladie. Hein. Malheureusement, on ne mesure pas tous les polluants. Il y a des nouvelles familles de polluants qui sont apparues tout simplement parce que les moyens, finalement, de mesure
de l'époque
ont évolué,
ne permettaient pas. Oui. Hein.
Et c'est le cas notamment des pesticides. Alors, le cas de Saint-Rogatien, là, qui est un cas un peu dramatique, hein, il y a quelques années de ça déjà, il y a 6 ou 7 ans, je pense, l'ARS avait été sollicitée et a fait une étude qui montrait qu'on avait un taux, finalement, de cancer des enfants dans une petite localité, Saint-Rogatien, c'est la couronne rochelaise, hein, qui était largement supérieure, des cancers pédiatriques, hein, qui étaient largement supérieurs à la moyenne nationale. D'où inquiétude de la population, d'où un certain nombre de réunions publiques qui avaient été faites. À l'époque, près du village de Saint-Rogatien, il y a effectivement une usine de traitement des déchets verts, hein, qui fait du compost. Et puis, il y a une usine de retraitement des revêtements routiers. Donc, à l'époque, l'accent a été mis là-dessus. Il y a une campagne de mesures qui avait été faite par Atmo Poitou-Charentes, dont je faisais partie du bureau à l'époque. Et en discutant avec les collègues, justement, hospitaliers, est apparu que, ce n'était pas forcément convaincant. Et donc, on a élargi le spectre. Il y a des mesures qui avaient été faites par Atmo Poitou-Charentes sur les pesticides, mais dans l'air. Donc, c'est la partie émergée de l'iceberg.
Ils peuvent avoir des impacts très loin, les pesticides, voilà, hein, jusqu'à 2 km.
Hein. Qui montraient que quand on a des périodes de traitement des cultures dans la plaine d'Aunis, eh bien, on avait des concentrations de pesticides, y compris dans la ville de La Rochelle, qui étaient très largement supérieures aux recommandations. Et en fait, la dernière étude qui vient d'être publiée il y a quelques jours, c'est une étude qui est épidémiologique qui a été faite auprès de 70 enfants, avec des prélèvements de cheveux dans les urines, etc., et qui ont montré des taux de pesticides très largement supérieurs à ce qui est admissible. Alors, c'est dramatique parce que, il y a une petite fille qui est décédée, hein, qu'on suivait, nous. À l'époque, moi, j'étais élu de la commune voisine, hein, de Périgny. On suivait ça avec beaucoup d'intention. Et puis, il y a encore des enfants qui sont dans des cas assez graves. Quoi.
D'où l'intérêt de bien réfléchir à ce qui est autour, voilà. de le mesurer, de l'identifier, de le suivre. Et puis, on va suivre
sur
aussi nous ça
après. Sur l'impact sur les pesticides, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Hein, parce que là, en l'occurrence, là, moi, j'ai lu l'étude qui a été publiée récemment. Ce sont pour la plupart des pesticides interdits en France depuis 10 ans.
Qu'on retrouve.
Avec des caractéristiques de rémanence, si vous voulez, qui sont très, très importantes. Qu'on retrouve dans l'eau, qu'on retrouve dans la terre, qu'on va retrouver dans les légumes, et pour partie dans l'air, mais c'est une petite partie, simplement.
On va bien surveiller tout ça. Un petit mot qui va nous amener des perspectives, de se dire il y a encore beaucoup à faire, comme tu disais, mon cher Tony.
Oui.
Un petit mot de ta part aussi,
puis on terminera avec Fabien. Sur ce sujet, alors, je connais pas... Enfin, j'avais entendu parler, bien sûr, du cas... De ses enfants, ça a été d'ailleurs assez médiatisé, mais je pense que ça fait aussi lien avec une actualité récente pour Respire, c'est la condamnation de l'État pour l'indemnisation de deux familles suite aux problèmes sanitaires graves qu'ont connu deux enfants, enfin c'était d'ailleurs deux nourrissons, et donc des familles qui vivaient à proximité du périphérique, l'une à Paris, l'autre à Saint-Ouen, et qui ont dû déménager en raison des conséquences sanitaires graves sur leurs enfants. Et donc l'une des familles était accompagnée par Respire, avec un de nos avocats, et on a obtenu pour la première fois, et je pense que c'est même une première mondiale, parce que non seulement il y a eu une première condamnation en première instance, avec en plus donc la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ces conséquences sanitaires et le lien avec la pollution, ce qui est très important, mais en plus on a obtenu aussi en appel la confirmation, la validation de ce jugement, avec une indemnisation qui était un peu plus importante, même si elle est franchement pas énorme, 4000 euros pour une famille, 2000 euros pour une autre, mais ça montre qu'il y a encore beaucoup de combats à mener pour la santé publique, et je dirais même pour la sécurité finalement de tout le monde, mais notamment des enfants qui sont quand même plus vulnérables.
C'est le début de leur vie, ils n'ont a priori pas d'impact par leur physiologie qui est toute neuve. Donc du coup, le moindre comment dirais-je la moindre positionnement qui fait qu'ils vont se faire impacter eux en premier et très fortement aussi. Parce que les enfants sont, outre leur mémoire est très bonne, et on dit c'est des éponges au niveau de la mémoire, mais également au niveau du corps. Donc ça, faut pas l'oublier.
Des conséquences qui durent. Bien sûr. C'est pas juste, ils ont eu de la pollution, ils ont eu quelques crises d'asthme pendant les pics. C'est par exemple une des crises d'asthme à répétition ou des otites à répétition qui font que maintenant, sur une des petites, elle a des difficultés de langage en raison de toutes les difficultés qu'elle a eues au niveau de la sphère ORL. Et tout ça pour dire que, voilà, il faut rappeler aussi ces cas-là, qui ne sont sûrement pas les seuls, qui ne sont sûrement pas isolés. Et je pense que c'est aussi par nos combats, alors les vôtres et nous aussi en tant qu'association, qu'on arrivera, j'espère, beaucoup mieux défendre les victimes, parce que je pense que c'est un peu un des angles morts aussi aujourd'hui.
Et c'est pas de l'attaque pour faire de l'attaque. C'est de la bienveillance. C'est vraiment de la bienveillance envers les.
Alors, c'est déjà de l'attaque pour qu'on applique le droit. Et la réglementation. Et ensuite, c'est une attaque pour protéger les victimes et les personnes vulnérables face à la pollution.
Voilà, une bienveillance dont on parlait tout à l'heure pour le CRQA, Fabien. Ça rejoint également les demandes d'indemnisation et d'accès à la justice, justement, de la directive sur l'air ambiant. On est en plein dedans. Et puis, bah, ce petit mot de la fin pour toi, Fabien, et tu vas nous parler de sujets aussi.
Je vais vous présenter deux livres. D'abord, je rappelle le livre « La qualité de l'air intérieur pour les nuls », donc avec pas mal d'articles intéressants. Voilà, coordonné par Nicolas. Et puis, je voulais parler du dernier. Donc,
avec 16 écrivains hein, qui ont fait partie du livre. Ça a été comme quoi, quand on est ensemble, on peut faire des choses. Et ça s'est extrêmement bien passé au moment de l'écriture. Tout le monde a été extrêmement enthousiaste. Et il en est sorti un livre qui, moi, j'entends régulièrement, on dit que c'est la Bible de la qualité de l'air. Et de ceux qui l'ont. Donc, écoutez... Hein.
Alors, je vous parle également d'un livre que je viens de publier avec une collègue du Haut Conseil de la Santé publique, Francine Marano. En fait, on a écrit ce livre pour qu'on n'arrive pas jusqu'à la crise, en fait. Et donc, on a étudié plusieurs crises sanitaires environnementales, qu'elles soient infectieuses, toxiques, accidents industriels, etc. On a essayé de décortiquer ces crises pour savoir où étaient les failles de ces crises. Pourquoi on était arrivé à la crise? Et donc, le but de ce livre, c'est comment éviter ces crises, comment mieux les anticiper. Donc, on donne un certain nombre de recommandations. Et en particulier, il y a un chapitre important après la description et les leçons tirées de ces crises. C'est les différents acteurs, le rôle des différents acteurs. Les pouvoirs publics, les chercheurs, les associations, le public lui-même, voilà. Et donc, on a essayé de... Chacun en prend pour son grade, hein, si je puis dire, dans notre livre, pour dire, voilà, comment on pourrait faire mieux pour éviter la crise.
Une explication pour aller vers du mieux et donc le faire avec les cercles concentriques regroupés.
Voilà, les crises sanitaires environnementales, comment les éviter, Francis Marano et moi-même, aux éditions Quai.
Merci beaucoup mon cher Fabien. Chers auditrices, chers auditeurs, on arrive à la fin de cette émission. Moi j'avais deux petits clins d'œil à faire. Un pour Corinne Mandin qui nous écoute. Et Corinne, bah, on est autant avec aussi Francis qu'avec Fabien, bah, de tout cœur, on t'embrasse bien fort. Et puis bravo encore pour ce que tu fais aussi pour la qualité de l'air. Et un autre clin d'œil en toute amitié pour Swad Boualala de l'ADEME qui nous écoute. Swad, à très bientôt de se retrouver pour toujours parler de ces sujets de qualité de l'air, parce que l'ADEME, autant l'énergétique et ces sujets-là est pleinement engagé. Fabien Skinazzi, merci beaucoup, mon cher Fabien.
Merci
à
beaucoup.
Une prochaine fois. On va surveiller, on va être ici aussi pour relayer la note de réflexion du CRQA qui va sortir. Hein. Cercle des réflexions sur la qualité de l'air, www.crqa.org. Tony, Association Respire, Tony Renucci, merci beaucoup.
Merci.
Hein, Association Respire, www.respire.org.
respire-asso.org.
Sylvain, merci beaucoup. Hein, Sylvain Courtet de Rovan Certita Certification. Alors là, c'est pareil, le site internet, c'est...
Vous tapez Eurovent, vous nous trouvez
Eurovent
tout de suite.
Directement, voilà. Hein, ça va le faire. Et puis pour Tipeee, mon cher Francis, entre autres, merci beaucoup aussi à toi d'avoir amené, à vous tous, d'avoir amené ces partages, parce que c'est ça qui est important pour faire progresser. Tipeee.fr. Il y a un site.
Plateforme
Tipeee. Très bien. Merci encore beaucoup à vous tous. Et chers auditrices, chers auditeurs, à très bientôt pour une prochaine émission d'Element Air, mon cher Nico. Ça fait 6 ans, mais ça va pas s'arrêter là. On va parler de la qualité de l'air parce que c'est un sujet d'une vie et de même de plusieurs vies. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.
Element Air, mon cher Nico. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo. Et sur toutes les plateformes de streaming.